France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, il ne vous aura pas échappé que cette année est une année Beethoven, année à laquelle France Musique participe avec l'émission d'Aurélie Moreau tous les jours à 17h, mais aussi en s'associant à la Folle Journée qui célèbre donc en 2020 Beethoven en présentant la quasi-intégralité de son œuvre. Comme chaque année, un livre accompagne cette manifestation et permet à un large public de mieux connaître le compositeur ou le thème choisi. Trois spécialistes de Beethoven se sont ainsi penchés sur sa biographie, sa musique et sa postérité pour établir un état des lieux. Beethoven et après d'Elisabeth Brisson, Bernard Fournier et François Gildas Tual chez Fayard Miraret. Une des bagatelles de l'opus 33 de Beethoven sous les doigts, d'Ingmar Lazare. Bonjour Elisabeth Brisson.
Bonjour Philippe Venturini.
Et bonjour Bernard Fournier.
Bonjour Philippe.
Alors, Elisabeth Brisson, c'est vous qui avez eu la charge de la partie qui ouvre le livre, qui est la partie biographique. Et vous commencez par resituer Beethoven tout de suite après sa mort, donc en 1827, en mars 1827. Et vous rappelez quel événement a pris, quelle ampleur a pris cet événement et comment Beethoven est devenu très vite un mythe, un enjeu même national, politique, artistique, événement qui a perduré à travers les siècles au point de vraiment considérer Beethoven comme une statue, comme un mythe. Et vous rappelez comment Schindler, qui fut un des proches de Beethoven, en tout cas à la fin de sa vie, a tout fait à manigancer pour devenir une sorte de biographe officiel, quitte à falsifier les documents. C'est étonnant de voir tout ce monde qui se précipitait autour de la personnalité du défunt pour éventuellement tirer la couverture à lui et puis glorifier après, construire un mythe.
Oui, alors il y a les écrivains, mais il y avait aussi les artistes plasticiens. Il y a deux jeunes qui étaient des amis de Schubert d'ailleurs, qui sont allés se faufiler pour voir les derniers soupirs de ouais. Beethoven, espérant avoir du matériau pour pouvoir faire un beau tableau qui serait à l'équivalent de la mort de Socrate de David et qui permettrait de donc de percer sur dans le domaine artistique. Ouais, ouais. Alors il y a un enjeu donc dès avant qu'il ne donne son dernier souffle. Ouais. Et comment est-ce que qui va faire cette biographie? Et les amis de Beethoven sont en première ligne, mais il faut savoir écrire. Donc on va solliciter un écrivain. Cet écrivain qui avait déjà qui avait déjà fait la biographie de Mozart et qui était directeur d'une revue musicale, Rochlitz, il s'appelait. Mais celui-là, il va décliner l'offre parce que c'était très compromettant que de parler de Beethoven à cette époque-là. Il avait trop d'ennemis et il fallait attendre, soi-disant, qu'il soit mort. Il avait fait déjà la nécrologie, Rochlitz, en disant combien Beethoven était encore incompris et qu'il serait compris. Donc c'était comme un brûlot. Hein. Mm-hmm. Quoi en faire? Et surtout, au profit de qui? C'est-à-dire, celui qui va faire la biographie de Beethoven, eh bien, il va en tirer une grande gloire.
Bien sûr,
ouais. Et c'est Schindler qui va essayer de tirer cette gloire en manipulant donc les documents, en procrastinant pour essayer de bien travailler le terrain pour que, à part des conférences, par des cours, par des articles de journaux, par des pics contre les autres, pour qu'on accepte la façon dont il présentait notre maître.
Et comment est-ce que, Elisabeth Brisson, on a réussi à démêler le vrai du faux et à établir une véritable biographie de Beethoven en explorant justement tout ce que Schindler avait pu y ajouter ou trafiquer ou modifier?
Alors, il y a plusieurs canaux. Alors, ce qu'il a trafiqué, ce sont les cahiers de conversation. Mm-hmm. Et là, depuis les années 1950, il y a eu publication de ces carnets de conversation et décryptage. Alors c'est vraiment comme les enquêtes de police. Hein. On en voit les écritures, la façon dont le papier a été appuyé, si ça a été gommé, si ça a été bon, etc. Et on a donc vu ce que Schindler avait mis en plus, et qui, très souvent, c'était des phrases sur lesquelles la biographie de Beethoven a été établie
ouais.
Et qui sont sans arrêt resservies.
Oui, reproduites de livre en livre. Ouais.
De livre en livre, et par exemple, que le destin frappe à la porte, il ne l'a jamais dit, ça n'a rien à voir avec cette fameuse symphonie, ou bien que lisez Shakespeare, etc., pour les sonates, les tempêtes, rien du tout, c'est des inventions, ou bien aussi Rossini, qui serait vraiment le concurrent épouvantable de Beethoven, pas du tout. C'est Schindler qui a réintroduit cela pour pouvoir dessiner un personnage de Beethoven qui était le sien, la façon dont il voyait ce compositeur.
Thank you.
Un extrait du Quatuor à cordes opus 18, numéro 6, la Malinconia, interprété par le Quatuor Artemis. Bernard Fournier, vous êtes un grand spécialiste du Quatuor à cordes. Vous avez écrit plusieurs gros livres chez Fayard sur tout le répertoire du Quatuor à cordes, sur l'esthétique du Quatuor à cordes. Et vous êtes en charge dans ce livre, Beethoven et après, qui vient de paraître chez Fayard Mirare, un peu de l'esthétique de Beethoven. On a entendu en ouverture une bagatelle, donc une pièce brève, avec beaucoup de notes répétées, qui donne un côté un peu impatient, une manière de prendre la parole extrêmement péremptoire, qui me semble être représentative du style de Beethoven. Et puis, un genre là, totalement différent, avec cet extrait du sixième quatuor. En quelques mots, tâche difficile, en quoi et comment Beethoven a-t-il révolutionné la musique de son temps?
C'est effectivement une question qui demanderait des
heures.
Oui,
des jours, oui, je sais bien, mais là, on ne peut pas.
Beethoven se disait poète en son. Je pense qu'il est aussi un penseur en son. Il a pensé la musique. Donc, cette pensée se traduit dans trois domaines.
Ouais.
La pensée logique, à travers laquelle il a repensé justement toutes les formes et les architectures. Et ces architectures d'œuvres sont absolument incroyables, parce que elle tente un pont vers le XXe siècle.
C'est-à-dire qu'il est parti de modèles existants,
oui,
comme la forme sonate, mais
oui,
il a fait éclater,
voilà,
le cadre à chaque fois.
Mais là, je parlais de l'architecture, c'est-à-dire l'architecture d'une œuvre globale.
D'accord.
Donc, il a fait la forme sonate. L'architecture de sonate, c'était des œuvres en trois ou quatre mouvements. Il est monté jusqu'à sept dans le 14e quatuor.
Oui.
Et puis, il ne s'est pas contenté du nombre de mouvements. Il a aussi créé une espèce d'unité qui n'existait pas vraiment avant lui. Une idée pas seulement par le contexte harmonique ou les citations les reprises de thèmes dans différents mouvements, mais quelque chose de sous-jacent qui est dans la structure profonde de l'œuvre. Donc ça, c'est très nouveau.
Oui.
Donc pensée logique pour l'architecture et la forme qui a effectivement fait éclater, comme vous dites, la forme sonate qui prend un visage tout à fait différent. Il n'a pas créé de forme, mais il avait besoin de formes existantes pour créer du nouveau. Et en fait, la forme sonate de Beethoven n'a plus rien à voir avec celle de Haydn ou de Mozart. Donc,
Premier point.
Deuxième point, pensée affective. Donc ça, c'est plus classique. Beethoven était quand même, quoi qu'on dise, un grand mélodiste. La pensée affective, il disait d'ailleurs, je crois, peut-être que c'est pas une citation exacte, la mélodie, c'est la vie intime de la musique, ou la vie affective de la musique. Et donc, c'est vrai que par ses mélodies, magnifiques parfois, c'est un grand mélodiste, mais c'était pas toujours son objectif. Donc c'est pour ça que il a souvent des thèmes rythmiques, parce que ça correspond à une autre volonté esthétique. Mais très souvent, quand il veut faire une beauté poétique à travers la mélodie, il peut trouver des mélodies sublimes.
Comme celle qu'on vient d'entendre, par exemple.
Oui, c'est vrai, mais celle-là, c'est encore plus, parce que c'est pas seulement une mélodie, c'est une mise en scène. Alors, on en vient justement à ce troisième aspect, que j'appelle la pensée pragmatique. C'est-à-dire, non seulement il crée des mélodies et de l'harmonie nouvelle, et des formes et architectures nouvelles, mais il sait mettre en scène de manière absolument moderne, et de manière tout à fait nouvelle. Cette mise en scène passe par, à la fois, une conception du son. Alors là aussi, il y a eu tellement d'erreurs qui ont été commises sur le fait que Beethoven, sourd, ne pouvait pas imaginer des sons et que le timbre de sa musique était relativement classique. C'est absolument faux. Il a inventé des sonorités du XXe siècle, vraiment. Et donc, le son, il a créé des sons incroyables, des sons intersidéraux dans une variation du 14e quatuor, des sons blafards, des sons scintillants. Alors, je suis tout à fait étonné parce que Messiaen considérait qu'il n'y avait pas le sens du son, sauf dans la symphonie pastorale. En fait, dans les quatuors, le quatuor qui est pourtant un genre monochrome, qui a priori a un son homogène, il a réussi à créer des sons d'une diversité incroyable. Et ces sons, en fait, sont au service aussi de la pensée affective. C'est-à-dire, les sons permettent de traduire la diversité des émotions, qui est quand même la grande spécialité de Beethoven, parce que je ne crois pas qu'il y ait des compositeurs chez lesquels on trouve autant de diversité expressive. Il a vraiment exploré tous les types d'émotions. Voilà.
Et Bernard Fournier, vous parlez d'unité dans la structure des œuvres de Beethoven, mais vous citez également, vous mentionnez également dans ce livre, la rupture qui est un élément aussi fondamental de l'écriture de Beethoven.
Oui, tout à fait. Alors, la rupture, là, c'est, d'ailleurs, je pense que la rupture, c'est-à-dire c'est le fait de passer brutalement, sans transition,
c'est ça,
d'un état psychologique à un autre, d'une émotion à une autre, c'est quelque chose d'inhérent à son style, mais qui est sans doute lié à sa vie. Parce que on sait que quand il était jeune, il avait ce que son amie, Madame Breuning, appelait des raptus. Et en musique, c'est d'une certaine manière, c'est l'équivalent des raptus. On passe de déferlement de notes violentes et passionnées à quelque chose de très intérieur et de très doux. Et il était comme ça. C'était sa nature. Ouais. Donc d'une certaine manière, moi je suis pas tellement intéressé par les conditions de la vie pour déterminer l'œuvre. Je suis assez proustien pour ça. Je pense que l'œuvre existe en tant que telle. Mais néanmoins, le caractère, il y a des données liées à la physiologie et à la psychologie du personnage, plus qu'à ses expériences de vie qui agissent sur la musique. C'est sûr que, par exemple, la surdité, qui a été un drame pour lui, a été un atout fantastique pour nous. Parce que grâce à la surdité, il s'est replié sur son monde intérieur, et il a réussi à mettre au jour des mondes absolument inconnus que personne avant lui n'avait trouvé. Mmh. Et là, je voudrais dire juste une petite chose. Nadia Boulanger disait que Beethoven, c'est l'Himalaya de la musique. Alors, c'est un peu une métaphore éculée, mais si on considère que l'Himalaya, c'est à la fois le plus haut sommet, on peut dire qu'effectivement, dans l'œuvre de Beethoven, il y a beaucoup de plus hauts sommets dans différents genres, mais c'est aussi un observatoire d'où on peut examiner toute l'histoire de la musique. Et Beethoven, en fait, on trouve dans sa musique la suite des grands compositeurs qu'il a admirés, Haydn, mais surtout Mozart, beaucoup plus que Haydn, parce qu'il avait beaucoup plus d'affinité avec Mozart, en fait. Mozart, Bach, Handel, mais surtout Mozart et Bach. Et puis, de cet observatoire, on devine tout ce qui va venir après, jusqu'à Wagner, Bartok, Webern. Enfin, on pourrait en parler si vous voulez, mais il y a énormément de compositeurs qui se sont inspirés consciemment ou inconsciemment de Beethoven, et très peu l'ont rejeté.
Peter Whispleway au violoncelle, Dejan Lazic au piano, c'était le final des variations sur un extrait de la flûte enchantée de Mozart, de Beethoven, bien évidemment. Elisabeth Brisson, Bernard Fournier nous a expliqué le rapport que Beethoven entretenait avec ses aînés, notamment avec Mozart, là on vient de l'entendre, mais justement, comment est-ce qu'il se situait dans l'histoire de la musique de son temps? On sait que sa musique a souvent eu des difficultés pour être comprise, pour être entendue.
Oui, on l'a qualifié de bizarre. Bizarre, c'était le terme qui était utilisé dans les critiques et même pour la sonate opus 47 de piano-violon, on parlait de terrorisme musical. Mais ce qui veut dire que les critiques et les publics se disaient qu'il y avait sans doute quelque chose qu'il fallait pas louper, que bon, c'était assez inaudible, ça avait beaucoup de bruit, déjà avant Berlioz, on s'y reconnaissait pas.
Souvent, ça paraissait trop long.
Oui, c'était trop long, trop sérieux, mais peut-être il faut pas passer à côté d'un génie parce que il avait quand même comme étiquette il a été reconnu très tôt comme un génie du piano, mais
oui, pianiste virtuose d'abord, oui, avant d'être compositeur.
Oui, c'est ouais. Ça, mais aussi très critiqué, c'est-à-dire parce qu'il tapait, il y en a qui étaient contre l'adulation que d'autres avaient. Enfin, c'était déjà un enjeu de critique. Ouais. Mais il éclatait. Il faut dire que. Mais il était aussi, il y a une forme d'ambition. Hein. Il parlait lui-même de sa politique musicale quand très jeune. Hein. Il savait ce qu'il fallait faire pour admettre, bien qu'il ne se reniait jamais lui-même, parce qu'il n'a jamais le malheureux. Il n'a jamais pu obtenir le poste de maître de chapelle auquel il aspirait tant.
C'est ça, en fait, c'est un peu le drame de sa vie. Enfin, d'un point de vue social, c'est de toute sa vie rechercher un poste qu'il n'a jamais obtenu.
Il était complètement en décalage avec la réalité, ce qu'il était et le monde dans lequel il se trouvait. C'est-à-dire qu'il était, je pense que c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas voulu l'avoir comme maître de chapelle parce que il correspondait pas aux normes routinières que ça exigeait.
Thank you.
La fin de la 8e symphonie de Beethoven, le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Hermann Scherchen en 1954, une interprétation qui n'a pas pris une ride, me semble-t-il. Bernard Fournier, vous évoquiez tout à l'heure, en quelques mots, l'exercice était difficile, je sais bien, le style de Beethoven, on pourrait parler aussi de l'évolution de son style, voilà. On a écouté des œuvres de jeunesse, bon, la 8e est contemporaine de la 9e, quasiment, enfin, il y a quelques années un peu avant. Comment est-ce que le style de Beethoven, qui en quelques années, c'est une révolution, comme
une révolution. On peut dire que en 40 ans, il a parcouru deux siècles, depuis le 18e jusqu'au 20e. Si par exemple on écoute à la suite le début du scherzo du 5e quatuor et la 3e variation de la grande fugue, on passe vraiment de l'univers de Haydn, même avant Haydn, Mozart, presque du baroque à la musique de Bartok. Et d'ailleurs, la Grande Fugue n'a pas vu vraiment d'après. Bartok la cite, mais même Boulez, qui n'était pas spécialement beethovenien, restait fasciné devant cette œuvre. Donc, dans la dernière partie de la création de Beethoven, on parle de trois manières. C'est réducteur, mais c'est quand même assez juste. Cette troisième manière qui a été totalement ignorée au 19e siècle, sauf par quelques compositeurs comme Schumann, mais a été le fer de lance de l'évolution de la musique au 20e. Tous les grands compositeurs du 20e se sont référés au dernier Beethoven. C'est vrai pour Bartok, c'est vrai pour l'école de Vienne. Weber ne peut pas penser que les premières bagatelles plus courtes que toutes celles qu'elle a écrites, c'est la bagatelle opus 119 numéro 10 qui dure 7 secondes. Bon, alors ça c'est un aspect, mais il y a tous les aspects, sur la forme et sur l'écriture. Et puis le 4e concerto, l'andante magnifique du 4e concerto où le piano et l'orchestre dialoguent comme un dialogue de sourds où chacun est dans son monde.
Oui, ils ne dialoguent pas vraiment en fait, ils sont chacun de leur côté.
Alors au début il y a des silences, et puis petit à petit les silences sont mangés, les répliques se recoupent, et puis il y a quand même une petite interaction. Mais donc Beethoven, ce silence de sourds, il le résout une certaine interaction, puisque à la fin, le piano s'agite et l'orchestre se calme. Mais ça, c'est ce qu'a fait Carter dans son 3e quatuor.
Très bien, merci beaucoup Bernard Fournier, merci Elisabeth Brisson. Je rappelle le titre de votre livre, Beethoven et après, qui vient de paraître chez Fayard. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Delphine Baudet, attachée de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.